Vior.
C'est un serpent, le Vior.
Ou le conte du serpent. C'était du temps des dinosaures, au début d'un hiver. À cet endroit, il y avait des plaines, des vallées, et surtout beaucoup de pierres, des roches grises et d'autres qui brillaient au soleil.
Tous ces cailloux qui sont nichés dans cette verdure, on sent que les choses sont de connivence les unes avec les autres.
Oui,
certaines étaient dures, d'autres friables. Ainsi, les hommes avaient pu s'en servir pour fabriquer des outils, des armes, et même les murs et les toits de leur maison.
Une toiture à lauzes, si elle était bien faite, avec une bonne charpente sous, elle pouvait passer 9 générations.
Le jour, la nuit, la forêt bruissait de centaines de cris, de piaillements, de brames et de meuglements.
Des bruits dans les bois, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de bruit la nuit. Aller une nuit dans les bois, il ne faut pas avoir peur. Hein. Mais c'est fou le nombre de bruits qu'il peut y avoir. Vous avez le sanglier qui passe, le blaireau certainement, le renard qui chasse.
Un seul animal était silencieux. C'était un immense serpent qui vivait là au milieu des pierres. Il était vraiment très, très, très long. Et même s'il n'était pas dangereux, il faisait peur à tout le monde, aux enfants et même aux grandes personnes. Pendant l'hiver, les serpents hibernent. Celui-ci dormait depuis déjà longtemps lorsque les habitants décidèrent d'en profiter pour le tuer. Ils firent place tout le long du reptile, des deux côtés, et avec leurs lances, leurs flèches et leurs couteaux, ils firent 1000 blessures au serpent et le transpercèrent de toutes parts. Celui-ci se tordit de douleur dans tous les sens, traçant avec son corps des courbes et des coudes, des arrondis et des crochets. Sa queue battait si fort qu'elle faisait trembler la terre. Par saut entier, son sang se déversait dans le sol par tous les trous que les hommes lui avaient faits. Il mourut ainsi dans un râle qui déchira la forêt. Les oiseaux s'étaient arrêtés de chanter. Tremblantes de terreur, les biches s'étaient dissimulées toutes ensemble dans un épais taillis. Même les sangliers s'étaient terrés dans leur bauge.
Je me rappelle quand j'étais gamin, quand il y avait un sanglier, c'était l'événement, on en parlait pendant 15 jours ou un mois. Le sanglier est passé, il faut aller voir où c'est qu'il est passé, etc. Maintenant, bon, le sanglier, il y en a beaucoup. Et puis, le chevreuil. Le chevreuil, il n'y en avait pas du tout quand j'étais gamin. Et maintenant, il y en a des quantités de chevreuil.
Il n'y avait plus un chant, plus un cri, plus un son. Les champignons même étaient rentrés sous terre. Un silence total régnait. Je l'ai dit, c'était l'hiver.
L'hiver, alors pour moi, l'hiver, c'est le blanc. Ça va vous paraître bizarre aujourd'hui, mais nous avions beaucoup de neige. Donc, on était bloqués ici.
Alors, à l'école, je revenais, c'était verglacé partout. Hein,
Les hommes du village partaient dans la matinée, quand ils avaient fini leurs travaux, pour aller déblayer la route.
Mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu froid. Bon, on me dorlotait. On mettait le vin à la bouillotte, le moine à la brique chaude, le lit était chaud. Hein. Et comme ils avaient beau le temps des oies, ils avaient du duvet. Alors les oiseaux en duvet.
Mon papa, là, il disait que quand il était gamin, très souvent il s'amusait l'hiver sur le Vior parce qu'il était gelé. Donc il faisait du patin à glace, il jouait au ballon.
Et après, il y en avait qui avaient beaucoup de complications pour aller faire boire les vaches. Parce que les chemins où ils passaient, c'était verglacé, elles se cassaient la gueule, les vaches.
Les chênes avaient déjà perdu leurs feuilles lorsqu'un froid glacial recouvrit le territoire et ce qui devait arriver, arriva. En gelant, le sang du serpent fendit la roche aussi sûrement que si cela avait été de la mousse. Pas sur quelques mètres de profondeur, non. le gel faisait éclater les pierres, creusait et déchirait le sol, suivant le tracé exact du corps du serpent. Bientôt, à certains endroits, ce n'était plus un fossé, ni une tranchée, mais une gorge profonde de plusieurs dizaines de mètres, divisant en deux la forêt. Ses flancs, parfois à pic, donnaient le vertige si on était en haut, oppressaient le regard si on se trouvait en bas. En d'autres lieux, les larges ondoiements du serpent, durant son agonie, avaient creusé d'amples vallées.
On franchissait pas trop le fjord.
Le paysage était bouleversé. Plus rien ne ressemblait au jour d'avant.
Non, je vous dis, ça a été une frontière.
C'était comme si une frontière avait coupé le pays en deux, zigzagant selon les dernières convulsions du serpent.
Une belle couleuvre qui se tortille, parce qu'ici, il n'y a que des méandres.
Témoin de la cruauté des hommes, certaines roches s'étaient imprégnées de son sang et leur teinte rouge venait leur rappeler tous les jours leur forfait.
Alors, il y avait beaucoup de couleuvres. Ah oui, 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 des serpents. Et ma grand-mère en tuait beaucoup, et notamment son chien. Et ici, maintenant, j'en ai qu'une. C'est Marguerite. Et je la conserve précieusement.
Vint le printemps. À l'endroit même où la queue du serpent finissait, naquit une source. Bientôt, elle inonda toutes les gorges et les vallées. Dans les gorges, ce qui était devenu une rivière se transforma en torrent impétueux. Des lacs se formèrent lorsque la pente était trop douce. Les habitants étaient perdus. Ils regrettaient amèrement d'avoir tué ce serpent qui ne leur faisait aucun mal. Mais c'était trop tard. Il fallait vivre avec cette frontière.
Ma grand-mère maternelle était de Lescure-Jaoul. Et ma mère, pour aller voir ses grands-parents, partait dans les travers du fjord, là, et un bac la faisait traverser pour aller revoir ses grands-parents côté Aveyron. Mais tout ça à pied.
Certains tentèrent de la traverser à pied, mais le courant les emporta. On construisit des ponts de bois, mais ils ne résistèrent pas aux premières crues d'automne. À chaque fois, il y eut des noyés. Et bientôt, les habitants appelèrent la rivière la Tumule tueuse. Jamais on n'en parlait en public. C'était comme un secret honteux que les habitants gardaient pour eux. Ils se disaient même en cachette que des lutins nourris au sang du serpent le vengeaient ainsi. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter ce châtiment. Et c'est ainsi qu'une nuit de pleine lune, toutes celles et ceux qui habitaient le long de la rivière se réunirent. Cela faisait beaucoup de monde. On alluma un immense feu et les discussions commencèrent. Certains voulaient reboucher toute la vallée avec des pierres pour enterrer définitivement le serpent. D'autres voulaient anéantir tous les reptiles de la terre. D'autres encore annoncèrent qu'ils voulaient quitter ce territoire tant il était maudit. Les enfants, qui s'étaient réunis de leur côté, écoutèrent les adultes, puis ils demandèrent la parole. C'est Jeanne qui parla au nom de tous.
Nous les enfants, on pense que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent a échoué, et que tout ce que vous proposez est un peu stupide. Nous on pense qu'il faut faire exactement le contraire.
Un grand brouhaha s'éleva. Les adultes soit riaient en se moquant de Jeanne, soit criaient pour dire qu'ils avaient autre chose à faire que d'écouter ces bêtises. Ce fut le plus âgé de tous les habitants qui fitèrent tout le monde en se levant. Il était tellement vieux que sa figure était pleine de rides, des profondes et des fines, des longues et des courtes, qu'on aurait dit qu'un fleuve et ses affluents s'étaient gravés sur son visage. Petits et grands, hommes et femmes, tout le monde respectait sa parole sage.
Même si cela ne fait pas plaisir à entendre, les enfants ont raison. Alors, écoutons ce qu'ils ont à nous dire.
Jeanne remercia l'ancien et se lança.
D'abord, il faut sceller un pacte avec les serpents de tout le territoire. Leur dire qu'ils seront notre totem et qu'on ne pourra plus les tuer. Juste les faire fuir quand ils nous font peur. et eux n'auront plus le droit de nous mordre. Ensuite, pour la rivière, il faudrait arrêter de la nommer la tumultueuse, parce que ça ne lui donne pas envie d'arrêter de nous faire des misères. Pourquoi ne pas lui donner un joli nom ? Et puis, on pourrait construire un pont au-dessus de la rivière, un pont solide, fabriqué avec les pierres de la rivière, comme pour lui faire honneur. Avec tout ça, nous, on croit que le serpent arrêtera de se venger si on le respecte et qu'on respecte les animaux et les plantes. Voilà.
Il y eut un grand silence. Les ricanements avaient cessé. Puis, les uns et les autres se mirent à discuter par petits groupes. Au matin, les enfants avaient gagné. Le temps passa. La rivière s'était installée dans le paysage et les habitudes de ses occupants. On construisit des moulins à roues pour moudre le seigle et le blé.
Le meunier est un personnage fondamental dans la société jusqu'au milieu du 19e. Et il y a un moulin en moyenne tous les 3 km sur la vallée du Viard.
Comme la roche avait été mise à nu par endroits, on découvrit du cuivre et de l'argent. Alors, on creusa des mines pour les exploiter.
Il y a eu des mines dans la vallée du Viard, oui. Il y a notamment des mines de cuivre, à Mirandol, par exemple. Mais ça n'a jamais débouché sur une véritable industrie. C'était les mines, je dirais, à l'ancienne.
Les bûcherons utilisèrent la rivière pour emporter les troncs d'arbres nécessaires à la construction des maisons.
Dans cette région du monde, on avait un arbre qui était généreux, qui fournissait de la nourriture, qui fournissait du bois pour faire de la menuiserie, qui fournissait du bois de chauffage.
Avec les branches qu'ils avaient enlevées des fûts de châtaigniers, ils construisaient des sortes de bûchers auxquels ils mettaient le feu avant de les recouvrir sous de grands monticules de terre pour fabriquer du charbon de bois.
L'activité du charbonnage, si elle a existé, c'est de manière marginale, hein, pas de manière organisée.
Avec les zones très escarpées qui étaient boisées. Hein.
Enfin, comme il y avait du sable, de l'eau et du bois pour alimenter leur four, des verriers s'installèrent le long de la rivière. Les habitants l'avaient adopté, comme elle l'avait adopté les habitants qui pourtant n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord sur le nom à lui donner. Il y en avait qui voulaient qu'il y ait le mot serpent et qui proposaient la serpente, d'autres l'ondoyante, d'autres encore la clémente. Jusqu'au jour où Jeanne, qui se baignait dans la rivière, ramassa de drôles de petits cailloux qui brillaient dans les reflets du soleil. C'était de l'or. La rivière n'avait pas fini de leur faire des cadeaux. Alors ils décidèrent toutes et tous de l'appeler le Viard. Et cric et crac, mon conte s'en est allé coucher dans le lit de la rivière.